Tout de suite le journal avec Cécile Bideau, bonsoir.
Bonsoir. C'est comme si l'histoire se répétait face à la quatrième vague de Covid-19. La France revit des séquences déjà vues. En Corse, le plan blanc vient d'être activé car les hôpitaux sont au bord de la rupture. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron communique en direct avec les Français pour les convaincre de se faire vacciner. Il répond aux questions par vidéo. Nous nous demandons si cette stratégie peut fonctionner. Dans ce journal, nous verrons ce que les Libanais peuvent attendre de la conférence internationale qui se tient demain. Jour anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth. Nous évoquerons la dissolution de l'association Genepi après 45 ans de militantisme dans les prisons. Et puis nous serons à Tokyo pour les JO avec l'exploit des volleyeurs français et la déception du perchiste Renaud Lavillenie. Juste après ce journal, le téléphone sonne avec vous Marion Lourd, bonsoir.
Bonsoir.
En cette période de vacances, vous dialoguez avec les auditeurs au sujet des résidences secondaires.
Oui, vous avez une résidence secondaire à Bordeaux, à Lyon ou au Pays Basque. Vous avez vu votre surtaxe d'habitation bondir récemment, ou bien vous habitez une commune du littoral ou de montagne et vous avez de plus en plus de mal à vous loger, le téléphone sonne. Et pour vous, ce soir, on attend vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
A tout à l'heure dans un quart d'heure.
France Inter.
C'est un signe qui ne trompe pas et qui montre combien la situation s'aggrave en Corse. Le plan blanc a été activé aujourd'hui pour aider les hôpitaux à faire face à la quatrième vague de Covid-19. En un mois depuis le début des vacances, le taux d'incidence a été multiplié par 15. Il y a trois fois plus de personnes hospitalisées aujourd'hui qu'il y a une semaine. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Que permet ce plan blanc et pourquoi est-il mis en place?
Eh bien, principalement, c'est de pouvoir ouvrir plus de lits. Cela sous-entend des reprogrammations et la possibilité de rappeler du personnel soignant en congé. C'est en Haute-Corse que la situation semble la plus tendue. Proche de la saturation ce week-end, 8 lits sur les 11 en soins intensifs occupés. Des insulaires non vaccinés pour la plupart. Pour le moment, aucune déprogrammation et aucun personnel rappelé. Mais il ne faudrait pas que la situation ne se dégrade plus. C'est l'espoir d'une accalmie cet été qui s'envole pour Jean Mathieu Defour, directeur du centre hospitalier de Bastia et son équipe.
J'ai en face de moi des soignants qui sont fatigués physiquement et moralement, des médecins qui sont fatigués physiquement et moralement, parce qu'il faut savoir que ça fait 15 mois que l'hôpital ne ressemble plus à ce qu'il était avant. C'est-à-dire qu'on modifie les unités, on modifie les services, on déplace les professionnels d'un service à l'autre. On a fait beaucoup de recrutements justement pour pallier à la création de ces unités Covid, mais c'est quand même très fatigant.
L'espoir tout de même, c'est que le taux de vaccination en Corse, 60% de primo-vaccinés, empêche la flambée. Mais l'île de Beauté n'est pas à l'abri de restrictions. La préfecture de police et l'ARS pourraient faire des annonces à ce propos d'ici la fin de la semaine.
Et est-ce que d'autres régions de France connaissent des situations tendues comme celle de la Corse?
Bien, c'est surtout en Outre-mer que la situation est tendue. Après la Martinique et la Réunion, la Guadeloupe entame cette nuit un confinement de 3 semaines. Ce qui inquiète les autorités sanitaires, c'est que les taux de vaccination y sont extrêmement bas et que les établissements de santé sont saturés. 4 à 6 malades vont d'ailleurs être transférés de la Guadeloupe vers Paris. En métropole, c'est principalement le pourtour méditerranéen qui observe des taux d'incidence particulièrement élevés, près de 750 cas pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes, avec une tension hospitalière qui reste encore maîtrisée, mais qui voit petit à petit ses services de pneumologie ou de réanimation se remplir.
Hélène Chevalier, chef du service santé de France Inter. Alors que l'épidémie flambe de nouveau, donc, la question de la troisième dose de vaccin est toujours en suspens en France. Le ministère de la Santé annoncera la semaine prochaine le périmètre exact des personnes à qui un rappel vaccinal sera proposé, les plus fragiles et les plus âgés. Des précisions à lire sur franceinter.fr. Sans blouse blanche, le docteur Macron continue de répondre aux questions des Français. Depuis hier, Emmanuel Macron est présent sur Instagram et TikTok et il invite les internautes, notamment les jeunes très présents sur ces réseaux sociaux, à interrogé sur le vaccin. L'objectif affiché par le chef de l'État, c'est de lutter contre les fausses informations et de couper l'herbe sous le pied des anti-vaccins. Simon Le Baron, est-ce que ce dialogue en mode selfie fonctionne en termes de vues et de stratégie?
Alors d'abord les vues, plus de 16 millions cumulés pour 5 vidéos postées sur 2 réseaux sociaux. Évidemment, les comptes présidentiels toucheront toujours une audience plus large que les médecins ou les épidémiologistes. Ensuite, la stratégie, comment savoir si elle fonctionne? C'est difficilement mesurable. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron combine là 2 méthodes qu'il aime utiliser. 1. S'adresser aux Français sans intermédiaire, comme lors du grand débat. 2. Casser les codes de la communication politique, comme quand il invite les YouTubeur McFly et Carlito à l'Elysée. C'est frappant d'ailleurs dans la dernière vidéo qu'il a publiée cet après-midi. Pour répondre aux internautes qui s'inquiètent des effets secondaires, le président n'hésite pas a parlé de lui.
Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas eu d'effets secondaires. Les formes graves sont très, très rares. Pour être simple, vous avez plus de chances de prendre des grands risques quand vous prenez votre voiture que quand vous vous faites vacciner.
Et pour appuyer encore davantage cet effet de transparence, de proximité, il se filme en polo à crocodile, col relevé, nous laissant même entrer dans la salle à manger du fort de Brégançon.
Je vous le dis sincèrement, la vaccination sauve des vies.
Sincérité affichée, simplicité apparente pour une communication évidemment calculée dans les moindres détails, mais une question qui subsiste, le chef de l'État est-il le mieux placé pour convaincre un public bien souvent méfiant à l'égard de tout ce qui vient des élites?
Merci Simon Le Baron. Parmi les populations encore éloignées de la vaccination, il y a les réfugiés et les demandeurs d'asile. Dans une circulaire envoyée aujourd'hui, le gouvernement demande aux préfets et aux agences régionales de santé de mettre en place des dispositifs pour aller vers ces publics via des équipes mobiles de vaccination. Aux États-Unis, la vaccination devient obligatoire à New York pour fréquenter les restaurants, les salles de spectacle et de sport. Le maire Bill de Blasio l'annonce aujourd'hui avec l'habituel sens de la formule des Américains. Si vous êtes vacciné, vous avez la clé. Sous l'égide de la France et des Nations Unies se tient demain la conférence internationale sur le Liban. Nous serons le 4 août, date du premier anniversaire de l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, faisant 200 morts et plus de 6000 blessés. La ville et le pays tout entier sont encore exsangues aujourd'hui. Une nouvelle aide de 350 millions de dollars pourrait être débloquée pour venir en aide à la population libanaise. Ce sera aussi l'occasion d'envoyer un message politique clair à la classe dirigeante dans un pays qui n'a toujours pas de gouvernement, Valérie Crova.
Paris ne cache plus son agacement devant l'inertie de la classe politique libanaise. En un an, trois premiers ministres se sont succédés. Deux ont jeté l'éponge. Le dernier, Najib Mikati, nommé fin juillet, à toutes les peines du monde, a constitué son équipe, empêtrée dans la répartition des portefeuilles ministériels, qui doit se faire comme toujours au Liban, sur une base confessionnelle. La France pousse pour la formation la plus rapide possible d'un gouvernement. Seul moyen, dit-on à l'Élysée, de mettre en place des réformes économiques de fond face à la dégradation de la situation et de placer les responsables libanais face à leurs responsabilités. La France et l'Union européenne manient le bâton. Un mécanisme de sanctions a été lancé par Bruxelles contre ceux qui contribuent à l'impasse politique. Ils se verront interdits de voyager dans l'Union européenne et imposer un gel de leurs avoirs. Si le cadre juridique existe, la liste des personnes concernées doit encore faire l'objet d'un accord à l'unanimité des 27.
Kaboul a été secoué par une forte explosion ce soir. Un panache de fumée est visible au centre de la capitale afghane. On ne sait pas encore s'il y a des victimes, on ne connaît pas l'origine de cette explosion. Dans le sud du pays, à Lashkargah, l'armée fait évacuer les habitants en prévision d'affrontements avec les talibans qui tentent de prendre la ville. 40 civils ont été tués en 24 heures. En Turquie, les incendies qui ravagent le sud du pays depuis une semaine se rapprochent dangereusement d'une centrale thermique à Milas. Des milliers de personnes sont en cours d'évacuation. Les feux, les pires en Turquie depuis 10 ans, ont déjà fait 8 morts. Ce n'est pas encore game over, mais les géants des jeux vidéo en ligne dévissent sérieusement à la bourse de Hong Kong. Moins 10% aujourd'hui pour Tencent, l'un des poids lourds du secteur. Il a suffi d'un article dans un journal d'État chinois pour que ses actions plongent. Alors que dit cet article? Eh bien, il dénonce tout simplement l'addiction des jeunes aux jeux vidéo. À Pékin, Stéphane Pambrin.
Les jeux vidéo sont l'opium des jeunes. C'est l'éditorial au vitriol d'un journal économique chinois qui a mis le feu aux poudres aujourd'hui. Pour ce journal, les jeux sur écran sont responsables de tous les maux de la jeunesse. Et dans le contexte actuel, on redoute une attaque en règle de l'État contre ce secteur, déjà sous haute surveillance, comme le sont tous les géants de l'Internet chinois, que ce soit Alibaba, WeChat ou TikTok. C'est le numéro 1 mondial Tencent qui cette fois se sent visé. Tencent, c'est plus de 20 milliards de dollars de revenus, 85 000 employés. L'État lui appelle de respecter les règles, des règles déjà très sévères dans le domaine des jeux vidéo en ligne puisque les mineurs ne peuvent pas jouer entre 22h et 8h. Tencent a annoncé immédiatement de nouvelles mesures encore plus strictes comme la reconnaissance faciale pour confirmer l'identité des joueurs et l'interdiction faite au moins de 12 ans de dépenser de l'argent dans les jeux vidéo ou encore limiter le temps de jeu des mineurs à 1 heure par jour et 2 heures seulement pendant les vacances. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
2 heures avant le lancement, Boeing renonce à envoyer sa capsule Starliner vers la station spatiale internationale. La fusée qui emmenait le vaisseau devait s'élancer depuis Cap Canaveral en Floride ce soir, mais il y a un problème dans le système de propulsion. Cela devait être une première mission d'essai non habitée pour l'américain Boeing.
France Inter. Cécile Bideau.
Dans le milieu carcéral français, c'était une association incontournable. Le Génépi vient d'annoncer sa dissolution. Elle existait depuis 45 ans et accompagnait les détenus dans et hors les prisons pour des cours, des ateliers, mais aussi des campagnes de sensibilisation autour de la question carcérale. Depuis plusieurs années, elle avait changé d'orientation. Et aujourd'hui, sur fond de tensions internes, c'est la fin, Jean-Philippe Degnaud.
Pour les anciens du Génépi, cette dissolution est un coup d'état de l'intérieur. Dans son communiqué, l'actuelle direction s'aborde tout ce qu'a été le Génépi depuis sa création en 1976. Le système pénitentiaire ne peut pas être réformé, écrit-elle. Outil du racisme, du capitalisme et du patriarcat, il doit être aboli et de promettre d'autres moyens de lutte révolutionnaires, féministes et anticarcéraux. Depuis hier, avec les anciens du Génépi, on est en pleine psychothérapie, témoigne Amélie Morin. Génépiste pendant 4 ans avant de devenir avocate.
La seule chose qu'ils vont avoir réussi à abolir là, c'est une association qui jusqu'à présent et pendant 45 ans avait eu une action concrète à l'égard des personnes incarcérées, mais aussi sur le débat public et sur la formation de tous ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités dans le monde prison-justice, dans la magistrature, chez les avocats, mais aussi au sein de l'administration pénitentiaire et dans beaucoup d'administrations qui aujourd'hui interviennent sur ces sujets.
Pourquoi ne pas avoir quitté l'association plutôt que de la dissoudre, s'interroge sur les réseaux sociaux les anciens génépistes que le communiqué d'hier soir remplit de tristesse et de colère.
Les voitures de marque Lancia et Alfa Romeo seront à 100% électriques d'ici à 2026-2027. Annonce de Stellantis aujourd'hui. Le groupe né de la fusion de PSA et Fiat Chrysler affiche une rentabilité record avec un bénéfice net qui frôle les 6 milliards d'euros au premier semestre. L'entreprise compte donner un coup d'accélérateur à ses véhicules électriques. 11 nouveaux modèles seront dévoilés au cours des 2 prochaines années. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, le mot n'est pas trop fort. Les volleyeurs français ont réalisé un exploit en battant la Pologne, double championne du monde, en quart de finale. Et pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de volley est en demi-finale des JO. Xavier Monferrand, la bataille a été rude et la victoire n'en est que plus belle.
Les valises étaient déjà prêtes, personne n'y croyait, pas même eux, mais en s'offrant la Pologne, double championne du monde en titre, les volleyeurs français ont écrit là l'une des plus belles pages de l'histoire de leur sport, et Jean Patry, l'un des héros du soir, a bien du mal à réaliser.
C'est énorme, il n'y a pas d'autre mot, c'est énorme, c'est 3-2 comme ça, on n'a jamais rien lâché. C'était un match de fou contre la Pologne. Qui sont en place et une grosse équipe. Ouais, c'est énorme, ouais. On n'a jamais rien lâché et je pense que c'est la clé du match. On est toujours resté dedans, on n'a jamais douté. Et eux, par contre, à l'inverse, ils ont commencé à douter quand on est passé devant de 1 point, 1 point, 2 points. Ils ont commencé à douter à ce moment-là, donc rien, incroyable.
Même le sélectionneur tricolore Laurent Tilly peine à y croire. Il le sait, l'équipe de France de volley revient de très loin. Elle est passée à 2 doigts de l'élimination. Ça rend l'histoire encore plus belle.
On était mort. Il y a 3 matchs, on était mort. On était tellement vidés et déçus. Et là, on est vivant et on bat la meilleure équipe du monde et on se retrouve en demi-finale, ce qui est incroyable.
Et en demi-finale, les Français retrouveront les Argentins qui les ont battus en phase de poule. Mais vu ce qu'il s'est passé aujourd'hui, bien malin celui ou celle qui peut prédire si les Bleus s'arrêteront là ou pas. Tokyo, Xavier Monferrand, France Inter.
Espoir de médaille en volley, alors que l'athlétisme français attend toujours son premier podium. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. Le perchiste Renaud Lavillenie a échoué. Il se classe 8e, loin derrière le vainqueur, le Suédois Armand Duplantis, et son saut à 6 mètres 2. Renaud Lavillenie, qui venait de soigner une entorse à la cheville, s'est blessé de nouveau à l'entraînement. C'est pour lui la cruelle loi du sport.
Je m'imaginais plein de trucs, hein, comme tout le monde. Mais je m'imaginais pas ça. Je peux pas dire que j'étais confiant à 100% sur ma cheville qui était déjà blessée. Et à aucun moment je pouvais m'attendre à me défoncer le pied droit. Et ouais, ça a compliqué toute ma soirée parce que pendant 3 heures je pense qu'à ça, je pense qu'à comment je vais arriver à essayer de réduire la douleur si c'est possible. Tu prends un mur en pleine fesse, quoi. La grosse satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire que je pense que je peux pas être pire physiquement que ça. Je finis 8e, en soi la place est anecdotique, mais c'est la manière du concours que j'ai fait, c'est la la capacité à tout donner, en fait, à tout donner. J'étais prêt, de toute façon, j'étais prêt à me défoncer, quitte à ce que je dois sortir sur civière. C'est presque surhumain de pouvoir espérer de faire 92 dans un contexte comme ça. Et pourtant, j'étais pas loin. Donc, c'est le sport de haut niveau. C'est à la fois sa beauté et sa cruauté en même temps, quoi.
Renaud Lavillenier avec Fanny Lechevestrier. À 34 ans, malgré cette défaite, le perchiste assure qu'il a encore le goût de l'olympisme et qu'il pense déjà à Paris 2024. Déception également pour Alexandra Tavernier. La vice-championne d'Europe du lancer de marteau termine quatrième au pied du podium. Les espoirs reposent désormais sur le décathlonien Kevin Mayer, en lice à partir de demain. La seule médaille du jour pour la France est en bronze, en cyclisme sur piste pour l'équipe de vitesse masculine.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Sébastien Léas, les prochaines heures s'annoncent agitées et pluvieuses.
Oui, encore une belle journée à regarder les Jeux Olympiques demain, même s'il n'y a pas de volet au programme. Le pays est dans un flux océanique, ce qui favorise les perturbations. Et entre aujourd'hui et demain, c'est un vrai défilé. Les pluies n'ont pas encore évacué le centre-est, que déjà la façade atlantique est de nouveau arrosée. Cette nuit, les pluies seront soutenues sur le sud-ouest et en glissant vers le golfe du Lion demain matin, elles deviendront même orageuses. L'après-midi, ce temps pluvieux et orageux concernera les départements à l'est du Rhône et la Franche-Comté. À l'arrière de la perturbation, il faudra composer avec des averses, notamment entre les Pyrénées et le centre-Val de Loire. On trouvera quand même quelques coins de ciel bleu, notamment entre la Lorraine, les Hauts-de-France et le bassin parisien. Les éclaircies reviendront aussi sur les plages de l'Atlantique l'après-midi, mais c'est en Corse que la journée de demain sera la plus lumineuse, avec un soleil légèrement voilé. Ce soleil permettra d'ailleurs d'avoir des températures plus élevées, avec 28 à 34 degrés en Corse. Sur le reste du pays, ambiance toujours fraîche, 18 à 27 degrés.
Merci Sébastien Léas de Météo France.